Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie va envoyer une lettre à l'Inde liée aux obstacles de l'exportation d'or. Le président Jokowi invite les investisseurs indiens à investir le domaine de la pharmacie. Le Parlement veut que les sympathisants des ISIS en Indonésie soient paralysés. La journée d'archipelago doit être en élan de la résolution du tourisme régional. La Commission avait achevé la discussion du projet de loi sur la frontière entre l'Indonésie et Singapour. Le gouvernement doit garantir la sécurité de l'histoire des pirates d'Abu Sayyaf. Voici les éléments complets. Le gouvernement indonésien va envoyer une lettre au gouvernement de l'Inde sur les restrictions à l'exportation en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire sur les produits importés, y compris l'or de l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, à New Delhi lundi, après avoir accompagné le président Joko Widodo dans une réunion bilatérale avec le premier ministre indien, Narendra Modi. Il a dit « L'Inde était un partenaire commercial stratégique pour l'Indonésie car il fournit beaucoup d'excédents commerciaux d'année en année. Malheureusement, il y a des obstacles rencontrés sur le terrain parce que l'Inde applique la politique des droits compensateurs sur les produits importés d'un pays. Cette politique a provoqué à des exportations d'or d'Indonésie vers l'Inde qui diminuent drastiquement. Les exportations d'or de Antam, par exemple, vers l'Inde en 2016, autant que 90 kg, alors que le besoin d'or dans ce pays atteint 800 tonnes par an. Le président Joko Widodo a invité les hommes d'affaires indiens à investir dans les domaines de la pharmacie, l'information et la technologie et l'automobile. Il a déclaré dans un communiqué de presse conjoint après la rencontre bilatérale avec le premier ministre indien, Narendra Modi, à New Delhi lundi, qu'il a bien apprécié la signature du protocole d'accord dans le domaine de la normalisation des échanges effectués entre les deux pays. Le président croit qu'il va encourager le commerce afin de soutenir la coopération économique et peuple-to-peuple contact. Selon le président Joko Widodo, l'Inde est un partenaire important pour l'Indonésie en raison des relations et coopérations dans le domaine politique, économique et socio-culturel entre les deux pays. Ce renforce plus. L'Indonésie veut augmenter le commerce et veut aussi diversifier les produits d'exportation vers l'Inde. Le président de la Commission 3 du Parlement de l'Indonésie, Bambang Susatyo, a affirmé que le gouvernement indonésien devrait donner pleinement l'autorité et le pouvoir discrétionnaire à la police et aux militaires de réduire les activités des sympathisants de l'État islamique d'Irak et la Syrie ou ISIS en Indonésie. Parce que les questions de développement des bases d'ISIS en Asie du Sud-Est seront un test difficile pour la défense nationale si elles ne sont pas anticipées. Bambang Susatyo, dans un communiqué lundi, a affirmé que certaines indications de développement des bases d'ISIS en Asie du Sud-Est sont déjà visibles à la surface. La première indication est l'anxiété qui était exprimée par le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, le général Gatot Nurmantio, et le président des Philippines, Rodrigo Duterte. Ils ont exprimé l'intention de construire une base dans le sud des Philippines pour créer un nouveau califat dans les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et Brunei Darussalam. La deuxième indication est le retour de dizaines de sympathisants du CIS, des citoyens indonésiens à l'Indonésie. Selon Bambang Susatyo, afin de réduire ou de paralyser ces menaces potentielles, le traitement juridique au contre les terroristes inattendus est soupçonné d'être strict. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a dit « La journée d'archipelago 2016 devrait être un élan de la reconstruction touristique des régions de l'Indonésie ». C'est ce qu'a affirmé Cahyo Kumolo en marge d'une série d'événements de la journée d'archipelago à Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Est, lundi. Cahyo Kumolo, qui est également président de l'organisation de cet événement, a déclaré que le potentiel touristique des régions insulaires Indonésie est très élevé. L'un d'elles est en raison de Lembata. Cependant, les éléments complémentaires de tourisme sont considérés comme pas tout à fait soutenir le tourisme, par exemple l'accès à Lembata qui est encore difficile. Il a ajouté, le président Joko Widodo veut que les régions potentielles destinées à des activités, la journée d'archipelago, sont développées en améliorant la qualité des ports, des aéroports, des routes et des gens. Si la construction des régions insulaires a été réalisée, le gouvernement va se connecter avec d'autres régions insulaires, comme cité par compass.com. Le pic de la journée d'archipelago 2016 est tenu à Lewoleba, Lembata, l'est de Nusa Tenggara, le 13 décembre 2016. Le vice-président de la commission du Parlement, T.B. Hasanuddin, a dit que sa commission avait achevé la discussion du projet de loi sur la frontière entre l'Indonésie et Singapour. Ce projet de loi sera présenté à la session plénière mardi, mais a été reporté car il y a seulement un président du Parlement. Hasanuddin a dit mardi à Jakarta que la ratification du projet de loi est de clarifier le point de limite définitif, ou que l'on appelle la frontière maritime de l'Indonésie et Singapour. Ainsi, la substance de la loi affectera l'activité de la sécurité qui sera menée par les armées nationales des deux pays. Il va certainement affecter les activités des pêcheurs opérant dans ces eaux. Selon lui, il n'y a pas encore de conflit entre l'Indonésie et Singapour concernant la frontière à ce point. Mais il est l'anticipation des deux pays afin de clarifier la base juridique à propos de la frontière à l'est. Le membre de la commission du Parlement d'Indonésie, Martin Huta Barat, a déclaré que le gouvernement devait assurer la sécurité et protéger les citoyens indonésiens contre les pirates d'Abu Sayyaf. Martin Huta Barat a dit à la Radio République de l'Indonésie mardi qu'il a rappelé à toutes les parties de libérer les citoyens indonésiens détenus par Abu Sayyaf. Selon lui, la coopération dans les régions de la mer afin d'assurer la circulation des navires peut fonctionner bien et sans crainte d'arrestation et de la piraterie, notamment les navires qui transportent du charbon pour être rappelé à nouveau que les bateaux ne passent pas par les eaux territoriales qui sont souvent détournées. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons maintenant le commentaire ayant pour le titre « La journée d'archipelago ». La journée d'archipelago a été proclamée pour la première fois le 13 décembre 1999. Deux ans plus tard, le 11 décembre 2001, le président à cette époque, Megawati Soekarnoputri, par le décret présidentiel numéro 126-2001, stipule que le 13 décembre est déclaré comme journée d'archipelago et a officiellement déclaré une journée nationale qui est célébrée chaque année. La journée d'archipelago débute de la déclaration de Juanda annoncée le 13 décembre 1957 par Juanda Kartawijaya comme premier ministre de l'Indonésie. La déclaration de Juanda a déclaré au monde que la mer de l'Indonésie entre et au sein de l'archipel indonésien est devenue une seule région de la République unitaire d'Indonésie, NKRI. La conception de la nation insulaire a été acceptée et énoncée dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, en 1982. Cette déclaration a été réaffirmée dans la loi numéro 17, 1985, sur la ratification d'une clause 1982 que l'Indonésie est un pays archipel. La superficie de la République d'Indonésie est de 2,5 fois de la taille de la superficie précédente. La journée d'archipelago est une affirmation et un rappel que l'Indonésie est le plus grand archipel du monde. La zone maritime d'Indonésie couvre les deux tiers de toute la région d'Indonésie, à savoir 5,8 millions de kilomètres carrés. Dans cette mer, il y a la richesse naturelle d'une magnitude extraordinaire. Le potentiel des ressources marines d'Indonésie, non seulement sous la forme de poissons, mais aussi de minéraux tels que le pétrole, le nickel, l'or, l'étain et d'autres qui sont au-dessous du niveau de la mer. D'autres richesses marines sont des ressources naturelles telles que les mangroves, les récifs coralliens, etc. Malheureusement, le potentiel des ressources marines indonésiennes, dont la valeur est estimée à environ 3 000 trillions de rupiahs par an, n'a pas encore été exploré au maximum. En fait, de nombreux pêcheurs qui habitent la côte indonésienne vivent encore sous le seuil de pauvreté et ont été les groupes les plus marginalisés en raison de la politique de développement qui mène au continent. Autrement dit, la mer n'a pas été considérée comme une source de croissance, de création d'emplois et de résolution de problèmes liés à la pauvreté. Il est temps pour le gouvernement et le peuple indonésien d'accorder plus d'attention au potentiel des ressources marines et de la pêche dans le pays. Le gouvernement devrait être plus sérieux dans la gestion de la navigation maritime nationale qui pourrait soutenir une croissance économique durable. En tant que plus grande nation archipelagique du monde, l'Indonésie a un grand potentiel pour devenir l'axe maritime mondial. Le président Jokowi, lors de son discours au sommet de la Zidles à Naypyidaw au Myanmar le 13 novembre 2015, a confirmé qu'il est déterminé de rendre l'Indonésie comme axe maritime mondial. L'axe maritime est une idée stratégique conçue pour assurer la connectivité entre les îles, le développement de l'industrie maritime et de la pêche, l'amélioration du transport maritime et l'accent sur la sécurité maritime. La souveraineté de la mer territoriale de NKRI, la revitalisation des secteurs de l'économie maritime, le renforcement et le développement de la connectivité maritime, la réhabilitation des dommages environnementaux et la conservation de la biodiversité, et l'augmentation de la qualité et la quantité des ressources humaines marines sont les programmes principaux dans le gouvernement du président Jokowi à l'heure actuelle pour réaliser l'Indonésie comme axe maritime mondial. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 décembre 1937, la fondation de l'agence de presse Antara. L'agence de presse Antara est la plus grande agence de presse en Indonésie qui est semi-gouvernement, même quand il a été fondé pour la première fois par les journalistes nationalistes dans la période coloniale néerlandaise avant la Seconde Guerre mondiale. Il est entièrement une affaire privée. À ce moment, Antara a été fondé par A.M. Sipahutar, M. Sumanang, Adam Malik et Pandu Kartawiguna. Comme le premier directeur à l'époque était M. Sumanang et Adam Malik en tant que journaliste plus jeune ayant 17 ans. En 1962, Antara est officiellement devenu l'agence de presse nationale qui est directement sous le président de la République d'Indonésie. Mais le 18 juillet 2007, afin de profiter des occasions d'affaires et envisager les défis de la convergence des médias, le gouvernement sous la direction de M. Susilo Bambang Yudhoyono a changé le statut de l'agence de presse Antara à être société publique. Le 13 décembre 1937, massacre de Nanking. À l'époque de la guerre sino-japonaise, Nanking, la capitale de la Chine, a été occupée par l'armée japonaise et le gouvernement chinois a fui vers Hankou, une région près de la rivière Yangtze. Pour supprimer l'esprit de combat de la nation chinoise, Le général Iwane Matsui, le commandant des forces japonaises, a ordonné de détruire la ville de Nanking et a tué des centaines de milliers de peuples de cette ville. Le massacre, qui a été commencé le 13 décembre 1937 et a duré pendant 6 semaines, a tué environ 200 000 hommes. 20 000 femmes ont été violées et puis tuées. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général Matsui a été condamné à mort par le tribunal militaire international. Le 13 décembre 1996, Kofi Annan a été élu comme 7e secrétaire général des Nations Unies. Annan a été élu par le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que secrétaire général et a été confirmé 4 jours plus tard par un vote de l'Assemblée générale. Annan a immédiatement pris un serment d'office et a commencé son premier mandat en tant que secrétaire général le 1er janvier 1997. Il est remplacé le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali de l'Égypte qui a pris son mandat. Il est devenu secrétaire général pour 2 périodes consécutives. Le 1er janvier 2007, il a été remplacé par Ban Ki-moon. Il a gagné le prix Nobel de la paix en 2010. La famille d'Annan fait partie d'un groupe d'élite du Ghana et son grand-père et son oncle étaient un chef de tribu. Le traité de Lisbonne est signé par le 27 pays de l'Union européenne suite au référendum français et néerlandais. La Constitution européenne a été remaniée pour former un nouveau traité moins ambitieux. Il permet de moderniser les traités de Rome et de Maastricht pour un meilleur fonctionnement de l'Union. Contrairement à la Constitution, aucun pays ne prévoit de référendum pour le ratifier. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La lutte contre le terrorisme en Indonésie ». Le président indonésien Joko Widodo demande à toute la communauté indonésienne de jouer le rôle actif pour lutter contre le crime de terrorisme. Sans le soutien de toute la société, il est difficile de lutter contre le terrorisme. Il a souligné le dimanche qu'il n'y avait pas de place pour le mouvement de terrorisme. Le président a également apprécié la police, notamment l'équipe de détachement spécial au Densus 88, qui a réussi de découvrir le plan d'action du terrorisme. La déclaration du président liée à l'arrestation de 4 suspects après la découverte de bombes à Bintara Jaya Bekasi, Jaffa West, le samedi 10 décembre. La bombe suspectée sera explosée aux objets vitaux nationaux. 3 hommes soupçonnés ont été arrêtés en 2 endroits différents le samedi. MNS et AS ont été arrêtés à Kalimalang Bekasi, tandis que le 3e suspect, S, a été arrêté à Karanganyar, Java Central. Cependant, une femme identifiée comme DNY a été arrêtée dans une maison louée le samedi 10 décembre. Dans cette maison, la police a obtenu la preuve d'une bombe dans un pot qui avait une puissance explosive élevée. Selon le président Joko Widodo, le succès du détachement 88 dans la découverte de plans d'action du terrorisme montre que le terrorisme est encore existe dans ce pays. Les attaques terroristes peuvent se produire partout et ce problème est la responsabilité de toute la société. Le président indonésien de l'Assemblée du peuple consultatif, ou MPR, M. Ousmane Sabta, a apprécié la police qui a réussi à trouver une bombe à Bintara, Bekasi, Java West, le samedi 10 décembre. Il a également rappelé à toutes les parties à renoncer ce problème aux autorités. Les rapports du public aux autorités liés aux menaces de bombes à Bekasi, Java West, est apprécié par de nombreuses parties, y compris le président du Parlement, M. Setia Novanto. Selon lui, cette condition est la preuve que la société indonésienne est bien consciente de tout le potentiel qui peut menacer leur vie. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le gouvernement indonésien va envoyer une lettre au gouvernement de l'Inde sur les restrictions à l'exportation en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire sur les produits importés, y compris lors de l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, à New Delhi lundi, après avoir accompagné le président Joko Widodo dans une réunion bilatérale avec le premier ministre indien Narendra Modi. Il a dit « L'Inde était un partenaire commercial stratégique pour l'Indonésie car il fournit beaucoup d'excédents commerciaux d'année en année. Malheureusement, il y a des obstacles rencontrés sur le terrain parce que l'Inde applique la politique des droits compensateurs sur les produits importés d'un pays. Cette politique a provoqué à des exportations d'or de l'Indonésie vers l'Inde qui diminuent drastiquement. Les exportations d'or de Antam, par exemple, vers l'Inde en 2016, autant que 90 kg, alors que le besoin d'or dans ce pays atteint 800 tonnes par an. Le président Joko Widodo a invité les hommes d'affaires indiens à investir dans les domaines de la pharmacie, l'information et la technologie et l'automobile. Il a déclaré dans un communiqué de presse conjoint après la rencontre bilatérale avec le premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi lundi, qu'il a bien apprécié la signature du protocole d'accord dans le domaine de la normalisation des échanges effectués entre les deux pays. Le président croit qu'il va encourager le commerce afin de soutenir la coopération économique et peuple-to-peuple contact. Selon le président Joko Widodo, l'Inde est un partenaire important pour l'Indonésie en raison des relations et coopération dans le domaine politique, économique et socio-culturel entre les deux pays se renforce plus. L'Indonésie veut augmenter le commerce et veut aussi diversifier les produits d'exportation vers l'Inde. Le président de la Commission 3 du Parlement de l'Indonésie, Bambang Susatyo, a affirmé que le gouvernement indonésien devrait donner pleinement l'autorité et le pouvoir discrétionnaire à la police et aux militaires de réduire les activités des sympathisants de l'État islamique d'Irak et la Syrie ou ISIS en Indonésie. Parce que les questions de développement des bases d'ISIS en Asie du Sud-Est seront un test difficile pour la défense nationale si elles ne sont pas anticipées. Bambang Susatyo, dans un communiqué lundi, a affirmé que certaines indications de développement des bases d'ISIS en Asie du Sud-Est sont déjà visibles à la surface. La première indication est l'anxiété qui était exprimée par le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, le général Gatot Nurmantio, et le président des Philippines, Rodrigo Duterte. Ils ont exprimé l'intention de construire une base dans le sud des Philippines pour créer un nouveau califat dans les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et Brunei Darussalam. La deuxième indication est le retour de dizaines de sympathisants d'ISIS, des citoyens indonésiens à l'Indonésie. Selon Bambang Susatyo, afin de réduire ou de paralyser ces menaces potentielles, le traitement juridique au contre les terroristes inattendus est soupçonné d'être strict. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a dit « La journée d'archipelago 2016 devrait être un élan de la restriction touristique des régions de l'Indonésie ». C'est ce qu'a affirmé Cahyo Kumolo en marge d'une série d'événements de la journée d'archipelago à Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Est, lundi. Cahyo Kumolo, qui est également président de l'organisation de cet événement, a déclaré que le potentiel touristique des régions insulaires en Indonésie est très élevé. L'Inde est en raison de Lembata. Cependant, les éléments complémentaires de tourisme sont considérés comme pas tout à fait soutenir le tourisme, par exemple l'accès à l'Mbata qui est encore difficile. Il a ajouté, le président Nico Widodo veut que les régions potentielles destinées à des activités, les journées d'archipelage sont développées en améliorant la qualité des ports, des aéroports, des routes et des gens. Si la construction des régions insulaires a été réalisée, le gouvernement va se connecter avec d'autres régions insulaires, comme cité par compass.com. Le pic de la journée d'archipelago 2016 est tenu à Lewoleba, l'Mbata, l'est de Nusa Tenggara, le 13 décembre 2016. Le vice-président de la commission du Parlement, T.B. Hassanuddin, a dit que sa commission avait achevé la discussion du projet de loi sur la frontière entre l'Indonésie et Singapour. Ce projet de loi sera présenté à la session plénière mardi, mais a été reporté car il y a seulement un président du Parlement. Hassanuddin a dit mardi à Jakarta que la ratification du projet de loi est de clarifier le point de limite définitif, ou que l'on appelle la frontière maritime de l'Indonésie et Singapour. Ainsi, la substance de la loi affectera l'activité de la sécurité qui sera menée par les armées nationales des deux pays. Il va certainement affecter les activités des pêcheurs opérant dans ces eaux. Selon lui, il n'y a pas encore de conflit entre l'Indonésie et Singapour concernant la frontière à ce point. Mais il est l'anticipation des deux pays afin de clarifier la base juridique à propos de la frontière à l'est. Le membre de la commission du Parlement d'Indonésie, Martin Huta Barat, a déclaré que le gouvernement devait assurer la sécurité et protéger les citoyens indonésiens contre les pirates d'Abu Sayyaf. Martin Huta Barat a dit à la radio République de l'Indonésie mardi qu'il a rappelé à toutes les parties de libérer les citoyens indonésiens détenus par Abu Sayyaf. Selon lui, la coopération dans les régions de la mer afin d'assurer la circulation des navires peut fonctionner bien et sans crainte d'arrestation et de la piraterie, notamment les navires qui transportent du charbon pour être rappelé à nouveau que les bateaux ne passent pas par les eaux territoriales qui sont souvent détournées. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir chers amis, nous nous retrouvons encore dans le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter le village touristique de Sambirpasi en Papouasie. La région de Biak Noemphur, la Papouasie centrale, développe son potentiel touristique. Elle prépare le budget de 7 milliards rupiah ou de 150 33 000 dollars américains pour construire des infrastructures du village touristique Sambirpasi. Sambirpasi est l'un des villages situés dans le district des îles de Padeido, Biak Noemphur. Le village touristique Sambirpasi sera développé en tourisme nautique. L'icône touristique de cette région pour attirer de nombreux touristes. Par conséquent, les installations touristiques continuent à être construites, telles que les chalets, les routes, le logement, les ports et les installations touristiques nautiques comme le jet ski, équipement de plongée, les cliniques et terrains de jeu. Le site touristique maritime de Sambirpasi est situé dans les îles de Padeido qui a été établi comme le parc marin. Son développement vise à soutenir la destination touristique du parc marin des îles de Padeido et les environnantes. La zone du parc marin, y compris Sambirpasi, est un endroit qui a la plus grande biodiversité des écosystèmes coralliens dans le monde. Ces îles possèdent 95 espèces de coraux et 155 espèces de poissons, telles que les différents types de requins de récif, le poulpe ainsi que diverses autres richesses maritimes. De plus, cette région a également de belles plages et une variété d'habitats tels que les atolls, les récifs frangeants et les grottes sous-marines. Le village touristique Samberpasi possède une mer cristalline. Avec l'œil nu, vous serez surpris par les nombreuses plantes marines, y compris les récifs coralliens. Les beaux poissons est une variété de la vie marine. Si vous prenez une promenade autour de la plage, dans la matinée, vous pourrez voir le lever du soleil et dans l'après-midi, vous pouvez voir la beauté du coucher de soleil. La beauté sous-marine des îles de Padeido peut être vue par la plongée. Si vous voulez plonger, vous devez être accompagné par un plongeur professionnel. Bienvenue fort sur l'île de Biak, peut être atteint de différentes îles en Indonésie en utilisant le vol à l'aéroport France Kaisiepo à Biak avec Garuda Airlines et Sriwijaya. Pour se rendre à Samberpasi sur les îles de Padeido, vous pouvez prendre seulement environ une heure de port Bosnik à Biak par bateau. Ou bien vous pouvez utiliser la pagaie des canaux. Il prend de 3 à 4 heures. En outre du village de Samberpasi, la région de Biak Numfor offre également diverses destinations touristiques marines, telles que la plage d'Inpendi, la plage d'Owari, Korem, Bosnik et la plage Segara. La plage d'Inpendi dans le village d'Adoki, le district de Yendidori, peut être prise au cours de 15 minutes de la ville de Biak. La plage d'Owari au village de Bosna Brajdi, le district de Biak Nord, peut être atteint environ une et demi-heure de la ville de Biak. La plage de Korem avec la baie incurvée de 1 km peut être atteinte à environ 32 minutes de la ville de Biak. La plage de Bosnik ou sur la plage Segara Indah dans le district de Biak oriental peut être atteinte à 25 minutes de la ville de Biak. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition du magazine culturel d'aujourd'hui. On se revoit encore dans la prochaine édition et au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est minum kopi. Je répète, minum kopi, ou en français, prendre du café. Comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois et vous le répétez après moi. Waktu luang. Waktu luang. En français, le temps libre. Rapat. Rapat. En français, la réunion. Kenapa. Kenapa. En français, pourquoi. Minum. Minum. En français, boire. Kopi. Kopi. En français, le café. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. En français, parler. Musim hujan. Musim hujan. En français, la saison des pluies. Kedai kopi. Kedai kopi. En français, le café. Udara. Udara. En français, l'air. Dingin. Dingin. En français, froid. Cocok. Cocok. En français, allez bien. Apa. Apa. En français, quel. Hitam. Hitam. En français, noir. Gula. Gula. En français, le sucre. Selera. Selera. En français, goût. Sama. Sama. En français, même. Pesan. Pesan. En français, commander. Dua. Dua. En français, deux. Cangkir. Cangkir. En français, la tasse. Kue. Kue. En français, le gâteau. Chers amis, maintenant on va mettre ces vocabulaires et des expressions dans une conversation. Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase. Cette conversation est entre Nina et Lucy par téléphone. A. Halo Nina, apakah hari ini kamu ada waktu luang? Halo Nina, apakah hari ini kamu ada waktu luang? En français. Allô Nina, tu as du temps libre aujourd'hui? Lucy. Ya, hari ini saya tidak ada rapat. Ya, hari ini saya tidak ada rapat. En français. Oui, je ne fais pas de réunion aujourd'hui. Nina, bagaimana kalau kita minum kopi? Bagaimana kalau kita minum kopi? En français, si on buvait du café. Di sana, kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Di sana, kita bisa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. En français, on peut prendre du café et parler de n'importe quoi. Lucy, baiklah, saya tunggu di kedai kopi. Baiklah, saya tunggu di kedai kopi. En français, c'est bon, je t'attends au café. Au café? Et Nina? Musim hujan, udara dingin, cocok sekali minum kopi, bukan? Musim hujan, udara dingin, cocok sekali minum kopi, bukan? En français, la saison des pluies, l'air froid, le café va bien, n'est-ce pas? Lucy, betul. Kamu mau minum kopi apa? Betul. Kamu mau minum kopi apa? En français, tu as raison. Quel café que tu veux? Lucy, saya mau minum kopi Lampung. Saya mau minum kopi Lampung. En français, je veux du café Lampung. Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. En français, le café noir sans sucre. Nina, selera kita ternyata sama. Selera kita ternyata sama. En français, nous avons le même goût. Baiklah, saya akan pesan dua cangkir kopi dan kue-kue. Baiklah, saya akan pesan dua cangkir kopi dan kue-kue. En français, bien, je vais commander deux tasses de café et aussi des gâteaux. Lucy. Sempurna. Terima kasih. Sempurna. Terima kasih. En français, parfait. Merci. Chers auditeurs et auditeurs, voilà l'édition Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à bientôt.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter un chanteur de dangdut, Yus Yunus. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « Mouchoir rouge ». Bonne écoute.
Satu tangan merah deritika sebagai penawar rindu pada dirimu.
Jadi tak setelah Samsung de Yus Yunus ang tutule Monsieur Rouge. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. La chanson intitulée Monsieur Rouge, composée par Yus Yunus lui-même, raconte les souvenirs des jeunes madurés qui tombe amoureux d'une fille de Jakarta. Il s'est rencontré quand elle visite Madura. Ce qui est unique dans cette chanson, Yus Yunus a également écrit en partie de paroles en madouré. Cette chanson est popularisée en 1992 à une bonne musique à danser. À travers cette chanson, son nom est devenu plus populaire et bien connu dans la scène musicale de dangdut dans la patrie. Chers auditeurs, avant de connaître mieux Yus Yunus, écoutons maintenant sa chanson intitulée « Fille de la Malaisie ». Bonne écoute.
Jangan kau tutupi the
Chers auditeurs, merci d'être fidèles à notre antenne La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la chanson de Yusunus, entre filles de la Malaisie, qui raconte un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille portant le kebaya ou le long vêtement avec un foulard en soie purple. La musique de cette chanson, composée par Fazal Dat, apporte le dangdut classique. En plus de publier un album solo, le chanteur Madura a également sorti plusieurs albums duo. L'une des chansons en duo le plus populaire est intitulée « Chauffeur du taxi et fille du village », chantée avec Iis Dahlia. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée « Chauffeur du taxi et fille du village » et « Dana Dana ». Bonne écoute. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.